Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Tissakaweden de la région de Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue le sommaire de cette édition. Un couvre-feu a été instauré ce jeudi par le nouveau gouverneur sur toute l'étendue de la région de Kidal. Cette décision restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida a présenté ce matin le cadre stratégique national de lutte contre le fléau. Ce document devrait permettre d'orienter les acteurs de la lutte contre la pandémie. Les activités folkloriques de la 8e édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou démarrent ce vendredi. Malgré le couvre-feu, des dispositions sécuritaires ont été prises. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes avec Imran Akilo Maïga et à la mise en onde Salim Diouara. Le gouverneur de la région de Kidal a instauré un couvre-feu sur toute l'étendue de la région à compter du jeudi 14 décembre 2023 de 20h à 5h du matin. Cette décision vise à assurer la sécurité de la population et à prévenir tout acte de violence dans la région selon le communiqué. C'est la première décision du général Eladji Gamou depuis sa prise de fonction. Le point avec Intala Akbilal.
Le couvre-feu est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué un habitant de la ville de Kidal sous couvert d'anonymat à Studio Tamani. Des responsables locaux ont aussi confirmé l'instauration de la mesure à Tessalit et à Agelhok. Ce couvre-feu de 20h à 5h du matin fait partie d'un dispositif instauré par le général Alhaj Gamou, gouverneur de la région, pour répondre aux besoins sécuritaires. Le communiqué du gouverneur précise que seuls les véhicules et autres engins de défense et de sécurité sont autorisés à patrouiller pendant les heures du couvre-feu. La décision met en garde que tout contrevenant à ces dispositions expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Cette première décision du général Alhaj Gamou intervient 3 jours après son arrivée à Kidal avec les administrateurs de la région et les chefs des services sociaux de base. Des sources locales indiquent que seules la mairie et la police, la gendarmerie et la protection civile sont pour le moment fonctionnels parmi ces services. Un premier couvre-feu de 30 jours et conductible avait été instauré le mercredi 15 novembre dernier au lendemain de la prise de la ville par l'armée.
Pendant ce temps, la circulation sur l'axe Bandiagara-Bankias sur la route RN15 n'est toujours pas rétablie ce vendredi 15 décembre 2023. Elle a été interrompue à la suite de l'explosion par des présumés terroristes des ponts de Parou et Botio reliant les deux villes. Cette situation commence déjà à affecter les habitants de ces deux localités et les riverains de la RN15. Mahmoud Gundo est membre du Conseil national de la jeunesse de Bankias. Il est au micro de notre correspondant local, Adama Dele Togo.
Jusque moi où je vous parle, le trafic en main, ça n'a pas commencé. Notamment les cars et les longs véhicules sont tous stationnés à Bandiagara.
Bon, jusqu'à là, ça n'a pas commencé. Depuis que les deux ponts ont été dynamités, la route est totalement coupée à tous les usagers. Raison pour laquelle la gare, comment dirais-je, de Bandiagara est bourrée des longs véhicules. Nous, dès lors, nous avons quand même monter l'information à l'AIDAS.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Haut Conseil national de lutte contre le sida a réuni les acteurs autour du cadre stratégique national de lutte contre la pandémie ce matin à Bamako. Selon les responsables du Haut Conseil national de lutte contre le sida, ce document permettra d'orienter les acteurs de la mise en œuvre des programmes d'activité pour l'atteinte des objectifs, notamment l'élimination du VIH. Ziadata Maïga a été à la rencontre.
Selon Amadou Simaga, secrétaire exécutif régional de la lutte contre le sida du district de Bamako, ce cadre stratégique national ambitionne de contrecarrer les défis liés à la transmission et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en 2024.
En 2024, on va tacler suffisamment le sida, l'information et la sensibilisation qu'il va contenir, prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-sida, mettre davantage en contribution les associations et les ONG. Nous ferons en sorte que la prévention de la transmission mère-enfant du VIH sida soit un mauvais souvenir.
Pour le coordinateur du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH, des améliorations sont notées dans la prise en charge des PVVH. Ali Djarma, coordinateur du REMA+.
Il y a les améliorations au traitement, il y a les améliorations au dépistage. Bon, l'appui fait un peu défaut, les opportunistes aussi font un peu défaut. Vraiment, moi, je pense que le cadre stratégique national, c'est bon. On peut avoir les médicaments partout. L'État n'a qu'à doubler d'efforts.
Les acteurs entendent mettre l'accent sur la sensibilisation de la jeunesse et le dépistage pour éliminer la pandémie.
Les activités de la 8e édition du festival Vivre Ensemble commencent ce vendredi 15 décembre 2023 de la cité des 333 ans. Cette année, le thème choisi est « Femmes et entrepreneuriat ». Selon Omar Baraka, chargé de logistique du festival, malgré le couvre-feu instauré pour la sécurité, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'événement. Omar Baraka est au micro de notre correspondant Tombouctou Alousseini Faye.
Comme d'habitude, il y a plusieurs rencontres qui se font au cours du festival Vivre Ensemble. Et en plus de ça, il y a les festivités même qui commencent à partir d'aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs artistes qui vont faire le déplacement de Bamako pour venir. Il y a aussi l'atelier Culture Commune qui met en relation les différentes régions. Réfléchir par rapport à la culture, comment est-ce qu'il faut faire pour que la culture soit véritablement un vecteur de développement pour nos différentes régions. Il y a les couvre-feux, nous sommes dans une année spéciale, comme je l'ai dit. Nous respectons ce cadre-là. Donc, au lieu de rentrer dans la festivité noctambule, les festivités vont s'arrêter à partir de 21h.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
La situation sécuritaire dans certaines localités du centre et du nord du pays reste préoccupante selon des populations locales, même si certaines notent une nette amélioration de la situation sécuritaire. Par contre, au sud du pays, une autre forme de violence est déplorée par des citoyens à Kita. Suivons ces quelques réactions recueillies par nos correspondants locaux.
On a constaté vraiment une amélioration considérable au niveau ici à Tombouctou. Et féliciter aussi nos femmes.
On peut dire que vraiment dans ces derniers temps, il y a eu la multiplication des attaques ici à Bandiangara, là où ils ont dynamité jusqu'à des ponts. Et vraiment, on ne peut pas dire que la situation sécuritaire est stable.
La sécurité n'est toujours pas assurée à Massina. Nous demandons aux autorités de mettre tout en œuvre. Sinon, des villages derrière le fleuve ont abandonné les lieux.
À Gaoville, comme on sent, maintenant que ça va, les braquages ont un peu diminué. Mais en Songo, franchement, parler, ça ne va pas. Et à Bourem aussi, il n'y a même pas une semaine de cela, on a enlevé le maire et son ségal.
À Kita, on pouvait faire des jusqu'à 3 ans sans entendre un homme qui a porté la main sur sa femme.
Restons à Kita, Bendougou, de la région de Kita. Une femme a été tuée par son époux. Le drame est survenu hier, jeudi 14 décembre 2023, à Bendougou, de la commune de Kobiri. Selon le maire de Kobiri, tout est parti d'une simple dispute quand la femme a demandé du maïs à son mari pour préparer du couscous pour les enfants. La discussion a pris d'autres tournures. Contre toute attente, la dame a été copieusement battue jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle était âgée de 37 ans et mère de 5 enfants. À présent, le résumé de l'actualité de la semaine dominée par le blocus de la route nationale 15 entre Bandiagara et Bankas. Le point avec Sita Sidibé.
Nous commençons par le retrait définitif de la MINUSMA au Mali. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a clos sa présence dans le pays lundi 11 décembre 2023. La cérémonie s'est déroulée à Bamako en présence des autorités maliennes. Autre fait marquant de la semaine, c'est l'ouverture de la 8e édition du festival Vivre Ensemble dans la cité des 333 saints. Plus de 2000 festivaliers venus divers horizons participent à ces rendez-vous culturels. Selon les organisateurs, toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des festivaliers. Terminons cette rétrospective par le blocus de la route nationale numéro 15 reliant Bandiagara-Bankas. Des transporteurs et les passagers ont été bloqués dans les deux villes après l'explosion des deux ponts sur les tronçons dans la nuit du 10 décembre dernier. Cette situation inquiète fortement les habitants de la zone.
Ainsi se referme ce journal présenté par Emirana Kilomega et mis en onde par Salim Diouara. Pour réécouter cette édition, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez également retrouver toutes nos productions sur l'application Studio Tamani, téléchargeable sur Play Store. Vous aurez le grand dialogue juste après le magazine Économie. Le débat va porter sur le manuscrit ancien et mausolée, témoin d'une civilisation multiséculaire. Il sera présenté par Mariam Koulibaly.
Attention. Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme Monsieur Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Plusieurs petites et moyennes entreprises sont actuellement impactées par les coupures d'électricité. Certains responsables de PME œuvrant dans le secteur agricole ou industriel affirment que ces pannes ont entraîné des pertes dans leurs chiffres d'affaires. Selon eux, la pénurie du courant oblige les entreprises à engager des coûts supplémentaires. L'État, conscient du problème, annonce la mise en place prochaine d'alternatives pour certains secteurs. Plus de détails dans ce magazine Économie réalisé et présenté par Khalifa.
L'accès à l'énergie est un facteur important dans la productivité d'une entreprise, nous dit ce responsable de médias. Sur 18 heures de diffusion, sa radio communautaire située à Mopti n'émet que 3 ou 4 heures en ce moment. Pour Moussa Bengali, c'est un énorme manque à gagner.
Surtout ici à Mopti, les radios communautaires n'ont pas d'autres ressources financières à part les programmes qu'ils diffusent. Il est difficile de parler des questions d'argent. Comment vous pouvez imaginer qu'une radio qui émet 18 heures sur 24 heures n'a que 3 heures ou 4 heures d'électricité par jour? Ça te met même en quiproquo avec le partenaire. Dire que si nous avons eu d'autres alternatives dans ce sens, on est obligé de prendre notre mal en patience.
En plus des pertes, certains entrepreneurs affirment que l'autre conséquence de ces coupures est la dégradation des relations commerciales avec les fournisseurs. C'est le cas d'Abdou Traoré, propriétaire de couveuses électriques à Sikasso.
Nous avons des poules pondeuses. Avec les coupures d'électricité, c'est vraiment difficile. Des pertes énormes sont signalées. Certains de nos fournisseurs peuvent t'amener sans œufs à pondre, mais on ne peut reçoit que 30 œufs. Cela crée des méfiances entre fournisseurs et partenaires.
Autre secteur qui peine à voir ses chiffres d'affaires grimper, c'est celui de l'agriculture industrielle à travers les usines de production d'huile et d'aliments de bétail. À Koutiala, par exemple, plus de 40 unités sont installées, mais difficile de travailler à hauteur de souhait selon certains responsables. Aboubakar Siriki Diabaté, secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments de bétail.
Nous tournons 24 heures sur 24 avec 3 quarts. Chaque quart fait 8 heures de travaux. Malheureusement, cette année, on ne tourne qu'avec un seul quart. Sur 24 heures, on travaille 8 heures de temps. Chose qui n'est pas du tout facile. Nous empruntons de l'argent auprès des banques. Nous achetons la graine auprès de la CMDT ou bien à l'assureur. Quand il y a rupture brute, ça fait des dégâts au niveau des machines. Pendant ce temps, nous payons les employés. On devra régler les banques. C'est un manque à gagner pour nous.
Bamako, la capitale malienne, est aussi au centre de ces coupures d'électricité. Ina Togo est gérante d'un pressing à Amdalaï ACI. En plus de la réduction de la productivité, elle affirme que cette situation l'oblige à mobiliser des fonds supplémentaires pour faire tourner son business.
Notre travail est lié à l'électricité au pressing. On paye chaque jour 15 000 francs de carburant pour notre groupe électrogène qui peine à fonctionner aussi. Cette situation réduit nos revenus et certains de nos clients ne sont pas contents parce que c'est difficile de respecter le délai. On est fatigué, il est temps de trouver une solution.
À la question de savoir si ces coupures intempestives impactent les entreprises, le professeur Abdoul Karim Diamtene répond sans ambiguïté. C'est un manque à gagner pour l'État et les entreprises.
Les recettes qui proviennent des impôts, c'est soit sur la production, soit sur le chiffre d'affaires, etc. Lorsque les entreprises subissent des retards dans la production, des baisses de la production, c'est tout à fait normal que cela ait des répercussions sur le chiffre d'affaires et toute chose qui devrait théoriquement entraîner à la baisse du niveau des recettes fiscales.
Interpellé par les consommateurs, le ministère de l'Énergie et de l'Eau Bondo annonce dans un communiqué publié cette semaine qu'il travaille sans relâche pour répondre aux besoins des consommateurs. De nouvelles dispositions, notamment l'acquisition urgente des batteries Robis pour les acteurs du secteur informel, sont aussi prévues.